Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous abordons le chapitre 13, mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Robert qui va nous aider à mieux comprendre l'enseignement de Jésus. Robert, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Au début de Marc, chapitre 13, les disciples de Jésus ont exprimé leur admiration pour le temple de Jérusalem. Mais Jésus leur a répondu que le jour viendra où ce bâtiment magnifique sera entièrement détruit. Puis il s'est lancé dans un grand discours, avec pour thème l'avenir. Par moments, il évoque l'histoire qui caractérise notre âge présent. Et puis, comme dans le texte lu aujourd'hui, il parle plus précisément des événements qui frapperont la ville de Jérusalem.
Oui, voici donc le moment opportun pour écouter notre texte biblique, Marc, chapitre 13, versets 14 à 23. Cédons la parole à notre lectrice.
Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse, comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde, et comme jamais plus on n'en verra de semblables. Vraiment. Si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ce qu'il a choisi pour qu'il soit à lui, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu.
Jésus annonce donc un temps catastrophique. Un temps où les gens devront prendre la fuite aussi vite qu'ils le peuvent pour aller se cacher et trouver refuge dans les régions montagneuses.
Et ces paroles se sont accomplies avec la destruction du temple et de toute la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère.
Oui. L'abominable profanation citée par Jésus est une référence au fait qu'avant de détruire le temple de Jérusalem, les Romains y sont entrés pour rendre un culte à leur propre Dieu. Il était interdit aux étrangers d'entrer dans les cours intérieures du temple et bien sûr, y pratiquer l'idolâtrie représentait le pire des blasphèmes. Ensuite, l'armée romaine a entièrement détruit le temple. La ville de Jérusalem, elle aussi, fut saccagée et brûlée. Pour le peuple juif, ce fut la pire des catastrophes imaginables. Jérusalem et le temple étaient le sujet de leur orgueil. L'anéantissement de ces lieux sacrés représentait l'humiliation complète de ce peuple.
Dans le texte lu, Jésus ne nous dit pas pourquoi un tel événement allait se produire. Nous donne-t-il des explications ailleurs?
Oui, certaines paraboles y font allusion. Il est triste de le constater. Mais la destruction de ces lieux est une expression de la justice divine. Elle répond au châtiment de Dieu.
Mais pourquoi Dieu juge-t-il ainsi son peuple?
Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas reconnu que Jésus est leur roi sauveur, celui promis par les prophètes. Au lieu de mettre leur confiance et leur espérance en Jésus, ils ont mis leur fierté dans des bâtiments sacrés et leur orgueil dans une religion faite d'œuvres et de traditions humaines.
Y a-t-il là un avertissement pour nous aussi?
Oui, je le pense. De nos jours, les gens font les mêmes erreurs. Nous pouvons mettre notre espérance dans de vieilles traditions ou dans la religion de nos pères. au lieu de reconnaître que nous avons besoin de Jésus. Nous pouvons mettre notre fierté, notre confiance dans les progrès et les exploits de notre civilisation et demeurer aveugles au fait que nous avons besoin d'un tout autre sauveur, Jésus. Et je dois ajouter qu'une catastrophe bien plus dramatique que celle qui a frappé Jérusalem attend tous ceux qui refusent obstinément de reconnaître Jésus, le Seigneur. Quand il reviendra dans sa gloire, il agira en juge, et tous ceux et celles qui se sont opposés à lui seront condamnés à passer l'éternité. Pour citer les paroles de Jésus, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets.
Mais Jésus donne aussi un deuxième avertissement. Il s'agit d'une mise en garde contre les faux prophètes.
Oui, souvent, lorsqu'un pays traverse des moments particulièrement difficiles, des personnes illuminées s'élèvent pour annoncer des soi-disant messages de la part de Dieu. Certains vont jusqu'à prétendre être le Christ. Cela devait être le cas durant les jours précédant la destruction du temple de Jérusalem. Sans doute, des soi-disant prophètes déclaraient que la ville sainte ne tomberait jamais entre les mains de leurs ennemis. D'autres prétendaient probablement être des envoyés de Dieu, dont la tâche était de délivrer le peuple du joug de l'Empire romain. Le peuple a-t-il mis ses espoirs en ces personnes au lieu de suivre les conseils du véritable Christ et de fuir vers les montagnes? De toute évidence, ce sont les paroles de Jésus-Christ qui se sont accomplies. Ces prophéties concernant Jérusalem se sont avérées vraies.
Et cette mise en garde contre les faux prophètes et les faux Christ est encore valable, même de nos jours.
C'est exact, Yann. Il s'agit d'un véritable appel à la vigilance et au discernement. Il ne faut pas croire n'importe qui et n'importe quoi. De nos jours, de nombreux prophètes s'élèvent, mais il faut être prudent. Et avant de les suivre, se demander... Leurs prophéties se réalisent-elles? Leurs enseignements sont-ils fidèles à la Bible ou en contradiction avec elle? Si nous avons des doutes, il vaut mieux rester à l'écart de ces mouvements fomentés par eux, même si les foules les suivent.
Et Jésus déclare même que ces soi-disant prophètes peuvent accomplir des miracles, des signes et des prodiges.
C'est pour rappeler à quel point le diable est puissant et mensonger. Oui, de nos jours encore. On peut côtoyer des faiseurs de miracles, mais une fois de plus, Jésus nous conseille d'user de discernement et de prudence. Selon le texte lu, la présence d'éléments miraculeux n'est pas forcément un signe de la présence de Dieu. Satan veut tromper. Il peut aveugler les gens et se déguiser lui-même en ange de lumière.
Merci pour cette mise en garde, mais pour ne pas laisser nos amis dans la confusion, pouvez-vous les aider à reconnaître le vrai serviteur de Dieu, du faux?
Oui, ne soyons pas aveuglés par les éléments sensationnels d'un ministère qui repose essentiellement sur les miracles ou sur les prophéties. Pensez aux tabourets. Ils ont besoin de 3 pieds fermes pour tenir debout. Si l'un d'eux manquait, le tabouret tomberait par terre. De la même façon, on peut reconnaître un bon serviteur de Dieu en se basant sur 3 éléments. Et je dirais que si 1 ou 2 manquaient, il est à douter que la personne soit un serviteur de Dieu authentique.
Quels sont donc ces 3 éléments?
Le premier, ce sont les fruits du ministère de ce serviteur. Et c'est l'élément qui nous intéresse le plus. Surtout si l'on remarque des miracles, des prophéties, des guérisons et des délivrances. Certains fruits sont bien moins spectaculaires, mais pourtant essentiels. Telles que les personnes qui se convertissent, celles qui sont encouragées, consolées et enseignées, celles qui croissent spirituellement. Mais il nous faut aussi considérer 2 autres éléments pour identifier si un serviteur est réellement envoyé par Dieu. L'un de ces éléments est que son enseignement et ses prétendues déclarations prophétiques ne doivent pas être en contradiction avec l'enseignement de Jésus et des apôtres. Le serviteur de Dieu doit faire de son mieux pour comprendre la Bible et l'enseigner fidèlement. Enfin, et 3e élément, la conduite morale du serviteur de Dieu doit refléter les valeurs enseignées par la Bible. Le serviteur de Dieu n'est pas au-dessus de la loi divine. Ainsi, s'il commet régulièrement et sans signe de repentance des péchés graves, tels que l'immoralité sexuelle, le manque d'intégrité financière, s'il a des excès de colère ou s'il a recours à la violence, au mensonge, alors il est à douter qu'il soit un serviteur de Dieu authentique. Tout vrai serviteur de Dieu doit produire de vrais fruits spirituels.
Merci Robin pour cet enseignement si pertinent. Oui, ne soyons pas séduits par le sensationnel ou le surnaturel, mais usons de prudence et examinons de près la vie du serviteur de Dieu. Sa sincérité dépend non seulement des soi-disant signes et prodiges, mais aussi de la fidélité de son enseignement, ainsi que de la sainteté de sa conduite. Au revoir Robert et à la prochaine.
Merci Yann et au revoir à tous.
Merci Robert. Il nous reste peu de temps aujourd'hui pour notre courte méditation biblique. De ce fait, nous allons simplement écouter une lecture biblique qui reprend ces mêmes mises en garde. Il s'agit d'extraits tirés de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Ce dernier était présent lors du discours de Jésus lu tout à l'heure par notre lectrice. Et à travers ses longues années de ministère auprès des églises naissantes, il a sans doute compris toute la pertinence des propos de son maître. Comme Jésus, il nous met en garde contre les faux prophètes et les faux enseignants sur les plans moral, spirituel et doctrinal.
Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés.
Vous venez d'écouter la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4, ainsi que le verset 9. Pierre y dénonce les agissements des faux prophètes et des faux enseignants. Il ne ménage pas ses paroles. Le chapitre contient de très forts avertissements à l'égard de ceux et celles qui profitent d'une position de pouvoir spirituel pour abuser des autres, pour les éloigner de la vérité ou pour les précipiter vers des conduites immorales. Soyez-en avertis. Dieu est juste et il ne tolère pas de tels comportements.
Merci Yann. Robert sera de retour la prochaine fois pour continuer notre série sur l'Évangile de Marc, chapitre 13. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.